Merci beaucoup Alexis de Meyer, nous vous retrouvons avec plaisir dans une heure pour le flash de 21h. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue dans une heure en série saison 1, épisode 30, une première saison pleine de rebondissements et de cliffhangers, c'est le moins que l'on puisse dire, et après une brève interruption, mais qui nous a semblé si longue, c'est enfin le 30e épisode, et c'est peu dire que nous, et je crois que je peux me permettre de parler au nom de toute l'équipe qui s'est mobilisée pour préparer cette émission, c'est un immense plaisir que de vous retrouver. Ce soir, nous parlerons droits des femmes et figures réactionnaires des années 70 dans Mrs. America sur Canal+ série, patronat véreux et révolte des laissés pour compte dans Dérapage sur Arte, et enfin aileron de requin et prédateur politique dans Parlement sur France TV.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Avec ce soir, non pas autour de moi, mais pas très loin, les confinés Ava Kahn de Frenchmania. Bonsoir Ava.
Salut Xavier, salut la bande.
Ravi de vous retrouver, Frenchmania, le site évidemment, mais également le magazine. Alors il est un peu reporté pour cause de confinement et de Covid-19, mais on vous retrouvera en papier, en kiosque, à la rentrée, c'est ça, en septembre ?
À la rentrée, dès septembre, on sera là, et vous nous avez manqué.
Ah oui, ô combien ! Ariane Allard, c'est la cumularde de la semaine, qu'elle écrit en propre pour Cosette, pour Positif, et désormais... Pour Frenchmania, nous sommes ravis que votre signature soit aussi
et
diverse.
Moi donc.
Bonjour Ariane.
Bonsoir Xavier, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver.
Oh, de même également. Et puis une voix qui nous a manqué, bien sûr, chaude, parfois tonitruante, mais inimitable, celle de Benoît Lagan. Réveille dans le 5-7 de Mathilde Munoz le vendredi. Dans fin de série. Bonjour Benoît.
Salut Xavier, salut à toutes les filles, je suis content de vous retrouver, ça fait du bien.
Ah ouais, c'est super agréable et merci à tous les auditeurs et toutes les auditrices d'être fidèles à notre rendez-vous. Allez, tout de suite, le premier débat et nous commençons avec Mrs. America, une série américaine en 9 épisodes, diffusée sur Canal+, série à la fois historique et politique. Mrs. America nous replonge au tout début des années 70, lorsque s'amorcent les luttes pour le droit des femmes aux États-Unis. C'est donc l'époque de l'ERA, l'Equal Rights Amendment, et le premier qui rigole a une baffe. Parmi les figures clés de ce mouvement mises en avant par la série, Gloria Steinem, l'une des premières à se battre pour la légalisation de l'avortement et faire inscrire dans la Constitution un amendement officialisant l'égalité homme-femme, ainsi que Shirley Chisholm, une femme de couleur briguant le poste de candidate démocrate aux élections présidentielles de 1972 et face à ses passionnats magnifiques, la méchante de l'histoire, Phyllis Schlafly, une grande conservatrice devant l'éternelle figure de proue du camp adverse, celui des femmes de droite, fières d'être des épouses modèles et de consacrer leur vie à élever leurs enfants dans le cadre rigoriste et poussiéreux de la morale wasp conservatrice, blanche et chrétienne, je sais qu'Ariane a son portrait sur sa table du chevet qu'elle avait l'air, évidemment, jour après jour.
Absolument, série... chaque jour avec adoration.
Et j'imaginais bien, absolument, il faut être dévoué à ce genre de figure. Une série écrite par Davy Weller, qui était scénariste, une femme scénariste, ayant travaillé sur Mad Men et sur Desperate Housewives. Alors, du côté de la presse, Marie-Claire salue une interprétation grandiose et une plongée captivante dans les coulisses des mouvements féministes aux États-Unis. Les Arox soulignent la force de la série, qui est de ne pas réduire Phyllis Schlafly justement à un personnage de méchante, mais de montrer au contraire ce qui l'emprisonne. Et enfin, Télérama parle de Mrs. America et nous rappelle à quel point les combats d'il y a 40 ans sont loin d'être gagnés, comme le souligne la série.
I am not against women. I am not against women working outside the home. But what I am against is the women's liberation movement.
Who the hell is Phyllis Schlafly?
We need to get the word out quickly.
We want the right to be a mother, the right to be a wife. The libbers want to create a sex-neutral
feminist totalitarian nightmare.
Do you know what you're saying has no basis in fact?
Our movement is about fighting the oppression of all women.
We do not want housewives thinking that we are against them.
We are against them.
Revolutions are messy.
Vous avez pu reconnaître dans cet extrait de la bande-annonce la voix ô combien identifiable de la géniale Cate Blanchett qui interprète donc Phillips Clafly, cette traîtresse à la cause des femmes. À ses côtés, les tout aussi formidables Rose Byrne, Uzo Aduba, Sarah Paulson, pour laquelle on a tous une passion ici, et la géniale Tracey Ullman qui a joué justement chez Woody Allen. Du coup, Ava, en tant que fondatrice du club Woody Club, je vous cède évidemment la parole. Féministe en diable, je suis sûr que vous avez été sensible à Mrs. America.
Alors, non seulement sensible à Tracey Ullman, mais en plus sensible à Mrs. America. Alors, pour ne rien vous cacher, je ne connaissais pas, moi, cette figure antiféministe des années 70 qu'on a baptisée ironiquement Tante Tom. Et j'ai trouvé ça audacieux hein, qu'une série au message de fond, évidemment, très militant, s'intéresse à cette personnalité peu aimable, méconnue du grand public. Et c'est très intéressant aussi qu'une actrice comme Cate Blanchett, dont c'est le premier grand rôle dans une série, incarne ce personnage, elle qui est justement hein, une actrice pleinement engagée dans la lutte féministe et notamment dans le mouvement Time's Up contre le harcèlement sexuel. Alors je fais souvent très attention à la manière dont une série commence. Et ici, la première image, c'est un plan fixe et rapproché sur un gâteau monté en pyramide sur lequel on retrouve des meringues et des fraises fraîches et dans lesquelles sont planter des drapeaux américains. Et en un plan, on comprend par la métaphore toute la direction choisie en fait par la série, c'est-à-dire faire le portrait par ses citoyennes et ménagères d'une Amérique qui peine à se réinventer et qui se pare de sucre glace pour faire passer la pilule du conservatisme. Et donc c'est par la cuisine d'une certaine manière qu'on va rentrer dans la série. Alors ce qui est très intéressant avec cette fiction aussi, c'est qu'elle évoque, comme vous le disiez Xavier, des années cruciales hein, dans l'histoire des États-Unis où le mouvement des droits des femmes rencontre celui des droits civiques et la série fait le choix d'expliquer explorer les deux camps, du coup, les idées réactionnaires comme les idées progressistes. Elle met en scène un combat entre les mères au foyer, conduite par Phyllis, et les femmes libres, dites actives, conduites par Gloria Steinem. À ce moment-là, ce n'est pas rien qui se joue, puisque c'est l'autonomie financière des femmes qui est en ligne de mire, mais aussi l'autonomie vis-à-vis de leur propre corps, hein, puisqu'il est question d'avortement, de pilules. Enfin, voilà, c'est remarquablement raconté, remarquablement écrit, extrêmement précis et documenté. Il ne faut pas avoir peur de la masse d'informations qui est brassée, hein, parce qu'elle peut paraître impressionnante, mais c'est justement le refus de simplification des intrigues et de la psychologie des personnages qui, pour ma part, rend cette série si percutante.
Alors donc, je sais que vous vénérez cette femme, cette conservatrice, cette réactionnaire, chère Ariane, mais pour autant, la série vous a-t-elle séduite ?
Eh bien, écoutez, j'aurais aimé avoir l'enthousiasme d'Ava. Je partage un certain nombre de ses arguments, mais je suis un petit peu plus nuancée. Et d'ailleurs, je suis un peu déçue d'être un peu plus nuancée qu'Ava, parce qu'évidemment, a priori, le sujet, l'époque, tout ça me parle énormément.
Oui,
voilà, même si j'étais une enfant dans les années 70, Xavier.
Je n'ai rien précisé concernant votre âge. Je parlais du militantisme, du féminisme,
voilà,
de la
vigilance. On va dire ça. Voilà. Et c'est une série qui hésite, à mon avis, d'un point de vue dramaturgique, entre le récit choral, parce qu'il y a plein de personnages foisonnants et avec des trajectoires très intéressantes en plus, et le biopic. Le biopic étant centré, bien sûr, autour du personnage de Phyllis Clafly. Je ne sais pas comment ça se prononce, il y a des L partout et des CH.
Moi, j'ai tenté Stifly, mais ce n'est pas grave.
Donc, voilà, Stifly, voilà. Et du coup, qu'est-ce que se passe-t-il? Parce que les premiers épisodes sont concentrés autour d'une personnalité. On commence avec Phyllis, puis après, on enchaîne avec, je pense qu'il y a notamment le personnage de la députée afro-américaine. Et ce qui se passe, c'est qu'on s'attache à elle, puisque c'est le principe de l'écriture sérielle. Malheureusement, l'épisode d'après, elle se retrouve au deuxième, voire au troisième plan, voire elles sont totalement effacées. Et quand on ne maîtrise pas, comme moi, je reconnais, totalement l'histoire américaine et l'histoire du féminisme, c'est un peu compliqué. Et moi, à un moment donné, j'étais soit un peu dans la confusion, soit dans la frustration. Donc, pour finir, je dirais que c'est un show
vieux,
qui est utile, je pense, qui est très soigné, mais qui exige quand même une attention assez soutenue et qui est relativement exigeant, je dirais, du point de vue du contenu.
Ouais. J'allais dire qu'il était temps de passer la parole au phallocrate de l'émission, Benoît Lagan, évidemment, farouche opposant à l'égalité homme-femme. Cher Benoît, qu'avez-vous pensé de Mrs. America ?
Alors moi, j'ai vraiment été passionné par cette série. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Ariane sur la structure de la série. Moi, je trouve que justement, c'est toute la force de cette série que de se centrer sur ce personnage antipathique qui est Phyllis, interprété par Cate Blanchett, parce que ça oblige toutes ces figures du féminisme, certes qu'on ne connaît pas bien, mais qui sont identifiées malgré tout. On sait qu'à cette époque-là, il y a eu ce mouvement-là. On sait moins ce qui a existé du côté de ces femmes blanches réactionnaires. Du coup, ça oblige ce féminisme à se positionner contre justement la parole de Phyllis. Et moi, ça, j'ai trouvé ça passionnant que la série soit la porte d'entrée de cette série soit Phyllis et que tous les autres personnages arrivent de façon secondaire. Et c'est petit à petit, au fil des épisodes, que l'on découvre ce féminisme des années 70 à travers ces diverses figures face à cette ennemie blanche qui justement nous permet aussi de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a un féminisme blanc qui défend Trump, par exemple. Enfin, toutes ces femmes au foyer qui défendent Trump. Donc, du coup, tout ça est passionnant. Ouais. La reconstitution historique parfaite, la musique, la bande-son est géniale, le générique est superbe. Moi, j'avais le pied qui tapait en permanence le rythme. Enfin, c'est contrairement à beaucoup de séries historiques qui regardent l'histoire. Elle, on est dans l'histoire. Et la mise en scène nous permet ça. Et ça, c'est vraiment réussi. Bien sûr, la créatrice qui a travaillé sur Mad Men, mais aussi sur Halt and Catch Fire, qui donc connaît bien les reconstitutions historiques, est sans doute là pour ça. Et c'est pour ça que c'est elle qui dirige cette série. Moi, aussi, petit clin d'œil pour terminer, pour les sériephiles qui adorent les sitcoms, il y a tous ces clins d'œil à la sitcom des années 70 qu'on connaît peu chez nous, mais on les voit, toutes ces femmes qui regardent All in the Family, Maude, la série qui a été adaptée en France sous le nom de Maggie, ou Marie et Rhoda du Mary Tyler Moore Show. Toutes ces femmes parlent de ces personnages ici et là, comme pour montrer que aussi le féminisme a été soutenu par la télévision et soutenu notamment par les sitcoms. Et ça, c'est passionnant aussi.
Merci beaucoup à tous. Nous venons de parler de Mrs. America sur Canal+ série. Nous venons d'entendre, de réécouter avec un immense plaisir Janis Joplin dans More Ever. Merci à Muriel Pérez, notre programmatrice musicale, d'avoir eu la bonne idée d'illustrer ce débat d'une chanson d'une autre figure féminine et féministe inoubliable, une voix magistrale, puissante et rauque, forte et fragile. More Ever, c'est l'extrait d'un album qui s'intitulait Pearl. Pearl, c'était le surnom que les amis de Janis Joplin lui attribuaient. Un album est là sorti à titre posthume en 1971, quelques mois après le décès par overdose de la chanteuse.
France Inter. Série.
Deuxième débat, Dérapage, une série en 6 épisodes diffusée sur Arte. La première partie a été diffusée le 23 avril, la seconde sera diffusée la semaine prochaine, mais que l'on se rassure, l'intégralité de la série est également disponible sur Arte TV, et ce jusqu'au 13 mai. Un thriller social adapté du roman Cadre Noir de Pierre Lemaitre, et qu'il a lui-même scénarisé pour mémoire. Pierre Lemaître avait été lauréat du prix Goncourt en 2013 pour son roman Au revoir là-haut. Alain est un ancien DRH viré par sa boîte il y a 6 ans. Depuis, il a multiplié les petits boulots ingrats où cette force de la nature bâtie comme un joueur de rugby se fait quotidiennement rabaisser par de minables supérieurs. Un jour, c'est l'humiliation de trop. Il frappe son odieux petit chef. Le voilà à nouveau sans travail et menacé d'un procès. Mais heureux coup du sort, sa candidature est retenue par une multinationale. Il doit participer à une fausse prise d'otage censée déterminer qui des cadres de la boîte convié à cette mascarade aura les nerfs assez solides pour mettre en place un immense plan de licenciement. Mais Alain, comprenant qu'il doit, une fois de plus, jouer les pions d'un jeu capitaliste qui le dépasse et le dévore, va se révolter contre cet état de fait.
J'ai été 25 ans DRH. Et après 6 ans de chômage, la condamnation à des jobs minables et à l'humiliation permanente.
J'ai réussi le test.
Les choses vont s'arranger.
Comptez virer combien de personnes à Beauvais ?
1250. Pour conduire ça là-bas sans faire de vagues, il va nous falloir quelqu'un de très solide.
Ce qu'on doit tester, c'est la résistance à la violence, la vraie violence.
Je vous propose une prise d'otage. D'un côté, vous aurez le meilleur recruteur, et de l'autre, vous aurez le meilleur cadre.
Ce qui craque poubelle.
Sauf que je sais absolument pas comment ça se passe, moi, une prise d'otage.
J'étais le joker du recruteur, maintenant je devais être le plus efficace. Finalement, je n'étais rien d'autre qu'un pion.
J'ai besoin d'une arme chargée à balles réelles.
Alors, ce cadre-là, vous voulez ? Maintenant, c'est moi qui décide !
Ils voulaient terroriser leur cadre. Je faisais la même chose.
Mon amour, je veux pas qu'il te fasse le
mal. On a un problème. Je crois que Monsieur Delambre nous a bien baisé dans les grandes largeurs.
Voilà mon petit père, mais les cartouches dans le fusil, on lâche les chiens.
Juste avant de vous céder la parole, signalons que la mise en scène est signée Zia Doueri, réalisateur au cinéma de l'insulte et à la télévision de la série Baron Noir sur Canal+. Côté casting, c'est un sans faute en ce qui me concerne, en tout cas, avec entre autres Gustave Carverne, Alex Lutz, Suzanne Clément et Eric Cantona. Mais je vous laisse bien sûr y revenir lors du débat. La presse est un peu contrastée pour cette série. Les Arocs parlent d'une tentative courageuse mais inaboutie. Ils sont peu convaincus, par exemple, par la présence, l'omniprésence même de la voix off d'Eric Cantona qui commente l'histoire, un peu comme dans une tragédie grecque. Et Télérama, en revanche, est nettement plus enthousiaste, appréciant le ton pamphlétaire mais gorgé de dérision porté justement par la voix et le corps de Cantona, ainsi que la peinture effrayante outrée du cynisme libéral qu'incarne Alex Lutz en PDG glaçant. Benoît, qu'avez-vous pensé de Dérapage ?
Moi, j'ai adoré Dérapage, et en particulier, effectivement, pour ce casting sans faute. Ça, on le doit au réalisateur, je crois, Zia Doueri, qui a signé les deux premières saisons de Baron Noir. L'idée, par exemple, de Cadmerade dans le rôle de Philippe Rigvart dans Baron Noir, c'était lui. Et là, l'idée de mettre Cantona dans le rôle d'Alain Delambre, c'est lui encore. Et je trouve que c'est parfait, parce que Eric Cantona, il réussit dans tous les registres. Parce que ce qui est vraiment réussi dans cette série, c'est que c'est vraiment une série où chaque épisode, le personnage qu'interprète finalement Eric Cantona, ce fameux Alain, rajoute une facette, comme si le personnage se composait épisode après épisode. Donc Cantona est génial en chômeur père de famille aimant, en père de famille têtu, en heureux futur grand-père, en père et mari fou furieux qui pète les plombs, en responsable de ressources humaines complètement improbables, en preneur d'otages, en tolard, etc., etc. Pas une fausse note par rapport à Cantona. C'est là où la série est vraiment réussie, c'est qu'elle offre donc à ce personnage ce que juste un roman finalement pouvait être centré uniquement sur l'histoire. Là, les personnages prennent vraiment toute leur place. Ce que j'aime aussi, c'est et c'est sans doute grâce au réalisateur aussi, c'est que c'est presque un message politique qui nous dit que oui, tu n'as peut-être pas la gueule de l'emploi. Parce que qui aurait misé un seul copec sur Gustave Kerven en hacker dans une caravane ? Pas moi, a priori. Pourtant, l'habit ne fait pas le moine. C'est un joli message politique. Finalement, on ne ressemble pas forcément à l'emploi que l'on recherche. Alors, les seconds rôles sont aussi parfaits. Moi, je trouve que ce qui est très bien aussi, c'est que c'est une série qui commence finalement comme un thriller, comme une série sociale, et qui finit comme un gros thriller. Et à chaque épisode, on a envie de connaître la suite. Enfin, il y a des séries vraiment sociales et ludiques en France, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut saluer vraiment cette série qui est haletante du début jusqu'à la fin.
Tout à fait d'accord. Ariane, êtes-vous comme nous raccord avec le fait de saluer les qualités de cette série ?
Oui, moi tout à fait. Moi, j'ai vraiment suivi ça de façon haletante et captivée. Alors, moi, dans ma tête, au bout d'un moment, j'identifiais cette série. Je me disais, c'est le cadre ce rebiff pour reprendre plagier gentiment le film de Granger avec Gabin. Mais c'est vrai que ça colle parce que le cadre et le cave, en l'occurrence, est un cave, hein, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, les chômeurs longue durée, quinquagénaires, sont considérés comme des voilà, c'est le bas de l'échelle. Et effectivement, ça nous parle d'un déclassement social. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé fait en fait dans ce récit, c'est qu'il articule trois registres qui sont souvent délicats à manier déjà séparément, alors ensemble c'est encore plus compliqué, c'est-à-dire le polar social dont tu as très bien parlé Benoît, le drame familial, parce qu'il y a aussi, il se joue quelque chose autour de l'intime de ce personnage, lui, mais aussi sa relation à sa femme et sa relation à ses deux filles, et puis c'est un pamphlet, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un regard très aigu qui est porté quand même sur ce sujet, et moi c'est aussi pour ça que ça m'a intéressée, je pense que c'est pas seulement un polar, c'est aussi une série politique, sauf que ce n'est pas une série politique de façon, elle n'est pas dogmatique, c'est pas, le message n'est pas asséné, on reste quand même dans le cadre d'un thriller, et moi je trouve qu'il y a une atmosphère qui est très oppressante, qui est à la fois palpitante et ironique, voire jouissive, et moi j'ai trouvé ça assez excitant, parce que d'abord je trouve que la réalisation est très intéressante, déjà le cadre dans lequel se joue ce récit est assez intéressant, puisque ça se passe à la Défense, hein, puisque bon, il est recruté par une multinationale assez opaque, voilà, donc c'est le lieu assez idoine, et ces tours géométriques, ces lignes obliques, même ces lignes de fuite, et puis c'est ce côté glaçant, froid, qui témoigne en fait de l'ultra-moderne solitude dans laquelle on vit encore aujourd'hui, je trouve que c'est très bien vu, et ça rapporte quelque chose au récit, on n'a pas besoin de lancer un message, d'ailleurs il y a assez peu de dialogues où ce ne sont pas des dialogues forcément illustratifs, moi ça j'aime beaucoup, et puis il y a ce regard sans concession sur cette société, sur ses dérives, sur ses humiliations, sur ses compétitions, sur ses violences, dont on parle peu, rarement, et c'est d'autant plus intéressant que c'est évidemment incarné par Eric Cantona, que moi je trouve absolument vraiment génial, je pense qu'il n'a jamais été aussi bon, à part chez Ken Loach, comme par hasard, oui, il y a forcément des liens entre les deux, et pourquoi il est bon? Il est bon d'abord parce qu'il a un charisme, hein, évident ce garçon, une énergie, une rage, et aussi beaucoup d'autodérision, et c'est ce que moi je rejoins Benoît, je pense qu'il y a aussi une part d'ironie, il y a quelque chose, c'est pas une comédie, hein, n'exagérons pas, mais il y a quand même cet ordre, justement, ce qu'on retrouve parfois dans certains pamphlets, c'est un peu, pas surjoué, mais on voit bien qu'on pousse un petit peu les limites, mais en même temps, on fonctionne à fond. Enfin, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant.
Merci beaucoup, Ariane. Ava, vous qui êtes le chantre du capitalisme et qui dévore ce matin les pages saumon du Figaro.
Je ne mange pas de ce pain-là, vous le savez.
Mais bien sûr que si, assumez un petit peu. Qu'avez-vous pensé de dérapage?
Bon, bah, je suis désolée, je vais un tout petit peu casser l'ambiance parce que moi, la
série. Ah, bah, c'est ce que je disais, voilà, déçue. De droite.
Voilà. Oh non,
non je vous ai écouté attentivement, hein, camarade. Hein, mais,
voilà, je lance mon stylo, je suis pas content.
Vous l'avez dit très justement, c'est-à-dire que la série croise les modèles. On est à la fois dans le cinéma social et pamphlétaire de Ken Loach, le thriller psychologique à David Fincher, le drame intime. Sauf que si les ambitions de départ sont très belles, je trouve que le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur des attentes que ça suscite. Les sujets de fond dont Ariane, tu as parlé, l'exploitation et l'humiliation des travailleurs, la loi du plus fort et du plus riche, les manœuvres machiavéliques des entreprises assoiffées de profit, la révolte des chômeurs, la société qui précarise et qui exclut, évidemment que tout ça m'intéresse. Mais je n'arrive pas à complètement accrocher parce que je trouve que la série, dans sa mise en forme et dans sa mise en récit, manque d'originalité et de modernité. Tout m'a paru un peu désuet, déjà vu, démonstratif, navré. Hein. Le choix de la narration, notamment face caméra et par la voix off, est géré, je trouve, sans finesse et ça devient vite ridicule. Quant au rythme, je trouve que la série a du mal à le trouver, pour le coup, et mon attention a du mal, elle, à se focaliser. Y a un très beau personnage, qui est le personnage de Suzanne Clément, qui est la femme, qui est une actrice qu'on a découverte chez Dolan et qui joue la femme d'Alain Delambre, qui dit « Ce qui me dérange, ce n'est pas que tu ailles travailler dans une entreprise qui balance ses employés, c'est que tu les aides à le faire. » Et finalement, je trouve que dans cette réplique, tout le problème de la série est posé. Et le problème, il est vieux comme le monde. C'est la fin justifie-t-elle les moyens? Et les deux premiers épisodes, on va voir le personnage d'Alain s'impliquer dans sa nouvelle mission, terroriser sa propre famille, hein, vraiment, qui en voit de toutes les couleurs avec lui chaque jour. Il va apprendre la filature, la psychologie des otages, les méthodes du parfait preneur d'otages, persuadé que cette mission, finalement, n'est qu'une pénible étape avant d'accéder à un poste et donc à plus de considération et d'estime de soi. Et évidemment, à l'épisode 3, le jeu de dupe va se transformer en règlement de compte, d'où le titre dérapage. Donc, j'aime vraiment tous les comédiens et comédiennes qui composent le casting de cette série. Cantona, et Alex Lutz, Suzanne Clément, Gustave Kervern, Alice Delanxin, qu'on n'avait pas cité. Mais les personnages qui campent sont, je trouve, quand même très caricaturaux, ou alors ils manquent d'épaisseur. Et autant ça me réjouit qu'on propose d'autres types de rôles à Alex Lutz, qui est un acteur caméléon, qui peut tout faire, qui peut tout être. Mais là, encore faut-il un personnage bien composé pour faire entendre sa musique quand on est acteur. Et son personnage, en l'occurrence, n'a pas de nuance. Il est vraiment l'archétype du produit d'école de commerce, sans âme ni humanité, décrit comme jupitérien d'ailleurs dans la série. Alors vous allez me trouver évidemment très sévère vis-à-vis de cette série, mais je le suis parce que justement, elle avait de quoi se démarquer. Il y avait une promesse de départ qui me séduisait et ces 6 épisodes n'ont pas réussi à me rendre accro. C'est une série tout à fait convenable, hein. Il n'y a pas de quoi crier à la catastrophe. Je la trouve juste un petit peu scolaire. Voilà.
Mais on vous aime quand même, Ava. Merci beaucoup. Non, nous venons d'évoquer Dérapage sur Arte et donc sur Arte TV en intégralité jusqu'au 13 mai.
J'ai vu de mes yeux grands ouverts les idées reçues, les paroles en l'air, les éclats d'obus, les éclairs, les coups de massue, les coups de tonnerre. J'ai bu à tort et à travers les discours décousus sans
c'était La Vérité Nue de Junior, Junior avec un E, un trio français mené par Anna Jean, qui était la fille de l'écrivain Jean-Marie Legésio, pardon, extrait de leur deuxième album 1, 2, 3, La Vérité Nue. Ce titre donc témoigne de leur influence yéyé, tout en jouant par les sonorités la carte d'une musique résolument contemporaine, un titre dressant comme le reste de l'album une carte du tendre, à la fois moderne et désenchantée.
France Inter. Une heure en série.
Et il est temps maintenant de nous retourner un peu dans le passé et avec l'effet miroir de Benoît Hagan, le moment où la télévision regarde la télévision via le prisme de notre tonitruant chroniqueur. Et en version confinée, Benoît, vous avez souhaité pendant quelques semaines nous proposer un effet miroir en forme de Madeleine, tout un programme.
Oui, c'est ça, parce que l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, archive, qui met en valeur et archive le patrimoine de la radio et de la télé, a lancé, il y a quelques semaines, son Netflix. Son nom, c'est Madeleine, M-A-D-E-L-E-N. Alors, si comme moi et Jacques Brel, vous l'attendiez avec du lilas, hein, vous allez être servi.
Bien placé.
Madeleine, et la plateforme est gratuite pendant 3 mois. Et ça a été un peu mon cadeau de confinement, idéal pour se replonger dans les pépites du petit écran français, découvrir ou redécouvrir que notre pays a une belle histoire télé et sérielle. Alors, côté série ou feuilleton, sur Madeleine, il y en a pour tous les goûts. Tenez, pour Marie-Annick Rimbaud, que l'on embrasse fort, elle pourra se régaler là, pendant ce confinement avec sa fille devant Jacoule Croquant. Ava, oui, il y a les rois maudits, Ava, parce qu'il n'y a pas que Game of Thrones dans la vie. Pour vous, Ariane, il y a La Maison des Bois de Piala, bien évidemment.
Merci, Benoît.
Et puis Xavier, oui, je sais, vous qui aimez les hommes en collant, hein, ça vous parle, hein. Il y a même l'intégrale de Thierry Lafronde.
Je confesse.
En ce qui me concerne, mon premier choix en mode confinement a été de revoir une série en 6 épisodes de Daniel Goldenberg avec 2-7. Oui, ça c'était comme l'écrivait Télé 7 jours au début des années 80. Alors si vous avez manqué le début, Xavier, on va jouer, si vous le voulez bien, à question pour un champion de série. Que suis-je ? Je suis père de famille, divorcé 2 fois et qui doit jongler entre vie de famille et un boulot de dessinateur dans la pub. J'ai 4 enfants, 3 filles et
papa
un gars.
Poule.
Ma série... Oh, qui a dit quoi ? Ariane ?
Ariane, elle était la seule déjà de l'année à l'époque de la diffusion, c'est pour ça.
ça. Papa Poule.
Papa Poule.
Mais effectivement, et c'était il y a 40 ans, en 1980, ouais, tous les vendredis soirs, sur Antenne 2. Le comédien qui incarnait Papa Poule, c'était Sadi Rebaud, son prénom Bernard, son nom Chalette. Donc Papa Poule, oui, c'est l'histoire d'une famille recomposée, de ce papa qui se retrouve contraint, mais pas trop forcé, à devenir pour ses quatre enfants à la fois leur père et leur mère. Bref, une famille à l'image de celle que l'on commençait à voir de plus en plus dans la société, mais qui était encore très ou trop peu montrée à la télévision. Et alors, à revoir les 12 épisodes de cette série et ces 2 saisons de 6, il apparaît non seulement que c'est un miroir sur les évolutions de son temps, mais qu'elle est même un peu en avance. Chez les Chalettes, en fait, on est bobo avant l'heure. Alors, Bernard travaille comme dessinateur dans la pub, mais espère pouvoir s'en extraire pour éditer sa propre BD. Ses deux ex-femmes sont indépendantes et très actives. Alors, l'une travaille dans la mode, l'autre est orthodontiste, et elles acceptent assez facilement que leur ex-mari garde seul les enfants en région parisienne. D'ailleurs, elles s'exilent loin de Paris. Enfin, chez les Chalettes, on pense à l'environnement. On défend l'énergie solaire. À une époque, souvenez-vous, Giscard ne croyait qu'au nucléaire. Et les enfants collent d'ailleurs partout où ils peuvent des stickers militants. Bref, revoir Papa Poule, c'est une jolie curiosité. Daniel Goldenberg a adapté son livre et il se surprend par ses thématiques. Et la réalisation de Roger Kahane est pleine de trouvailles. Mmh. Au-delà des petits rebondissements, il laisse vivre comme rarement la chronique de la vie quotidienne d'une famille où l'on rit et se chamaille beaucoup, comme des scènes plus vraies que nature avec des enfants très naturels, ces moments filmés à table autour d'un plat de pâtes ou ces caméras embarquées sous un lit à étage pour filmer les enfants dans leur chambre ou avant d'aller à l'école ou encore à l'arrière de l'estafette, à une époque où la ceinture de sécurité n'était même pas en option. Enfin, revoir Papa Poule, c'est l'occasion de réentendre son générique, une chanson qui nous revient en tête automatiquement. Effet Madeleine oblige. On a le don ou on n'a pas. C'est un métier non. Où on n'apprend pas. Non,
ça, j'avais oublié ça, en revanche.
Tenez-vous un peu, les gens vous écoutent, la France entière vous écoute.
Je suis en mode confiné, je peux me permettre de chanter Papa Poule, non ? Voilà. Un Papa Poule, un Papa Cool. Bon, je m'arrête là. Désolé.
Le pape de tous les super papas, parce que moi aussi, j'ai regardé Papa Poule à l'époque. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir titillé notre nostalgie et d'avoir enchanté, dans tous les sens du terme, cette chronique qui restera dans les annales. L'effet miroir de Benoît Lagan, évidemment, une chronique à réécouter et réécouter, ne serait-ce que pour les 20 dernières secondes en podcast, voilà. Comme le reste de l'émission. Vous êtes toujours dans Une Heure en Série sur France Inter avec Ariane Allard, Ava Kahane et Benoît Lagan, les confinés, mais loin d'être des confinis, bien sûr. Et pour ce débat 3, il fallait bien que je la place quand même, hein, quelque part, à un moment ou à l'autre. Troisième débat consacré à Parlement, une série directement disponible sur le site de France Télévisions, France.tv. Samy, tout jeune assistant parlementaire, débarque à Bruxelles pour débuter la carrière d'une vie pleine d'illusions et de candeur. Il doit, hélas, vite déchanter. D'abord parce que le député pour lequel il travaille s'avère être un champion toute catégorie de l'incompétence et de la paresse. Mais Samy n'est pas au bout de ses peines. Il devient vite une cible facile pour les lobbyistes de tous crins qui ne font qu'une bouchée de notre jeune candide en le manipulant allègrement. En débarquant au Parlement, Samy va devoir apprendre à son corps défendant à nager avec les requins au sens figuré d'abord, parce que tout autour de lui n'est que combat et trahison, mais également au sens littéral, car en proposant malgré lui un amendement sur la pêche illégale au squale, notre infortuné héros va déclencher une tempête diplomatique.
Les conseillers politiques sont soumis à l'autorité de leurs députés.
Donc de Michel ? Vous l'avez déjà rencontré ?
Allô ?
Non Michel,
ça va, c'est Thorsten.
Du ninja ?
Si la production halieutique dans sa conscription...
C'est un mode adulte.
Oui, oui.
C'est possible, quoi.
Ben, c'est possible.
Next.
Et là, ça devient assez simple. Puisque le compromis F, qui modifie le paragraphe 13, est composé de l'amendement 45. Naturellement, l'amendement 13 ne portait pas initialement sur le paragraphe 13.
Oui, oui.
Une sitcom satirique signée Noé Debré, jeune auteur ayant travaillé, entre autres, avec Jacques Audiard et Yvan Attal. Et avec dans le rôle de Samy, Xavier Lacaille, comédien, mais également scénariste, puisqu'il a récemment coécrit la série Validée pour Canal+, on en parlera dans quelques semaines. Je l'ai trouvé pour ma part, Xavier Lacaille, assez formidable, mais je vous laisse me dire bien évidemment ce que vous en pensez, entre autres. Côté presse, Télérama salue la lucidité distanciée et l'ironie désabusée, le ton de la série est là, niché derrière des séquences corrosives et burlesques, que l'on avait d'abord prises pour des caricatures peu inspirées. Pour les Inrocks, c'est une série politique et sentimentale qui brille par son esprit satirique. Le Parisien évoque une série qui parle avec légèreté sur la forme et rigueur sur le fond des rouages complexes et de la comédie humaine qui régissent les institutions européennes sur fond de Brexit. Pour moi, c'est une très bonne surprise, mais à vous de me le dire. Ariane, le Parlement, l'Europe, tout ça, est-ce que ça vous parle ?
Écoutez, moi je suis exactement dans le même sillage que vous, c'est-à-dire que non seulement c'est une bonne surprise, mais je me suis même surprise à me régaler complètement au fur et à mesure que j'ai avancé dans les épisodes. Pourquoi c'est une bonne surprise ? Bah déjà parce que le sujet quand même à la base il est un peu improbable, déjà parce que c'est une plongée en huis clos et qu'en période de confinement on n'a pas forcément envie, enfin en termes de timing, de se retrouver à regarder un huis clos. Et ensuite parce que surtout on est plongé au cœur du Parlement européen, donc celui de Bruxelles d'abord, puis un petit peu à Strasbourg, cette espèce de grosse machine bureaucratique et politico-politicienne dont on nous parle depuis des années, pas forcément sous un jour très sémillant. En l'occurrence, c'est vrai que l'Europe quand même traverse une crise de défiance vraiment très forte depuis quelques années, et pas seulement depuis le Brexit. Hein. Et justement, ce qui est formidable dans cette série, c'est qu'ils choisissent de prendre un ton très léger, un ton de comédie, et qu'il n'hésite pas, en plus, c'est ça que j'aime énormément dans l'écriture, à manipuler les pires clichés, notamment sur les identités nationales, comme nous on le fait couramment pour se moquer des uns et des autres. Donc on retrouve un député français évidemment paresseux, une conseillère politique allemande évidemment dominatrice et glaciale, ou une députée anglaise pro-Brexit qui est moi et ma chouchoute, qui est complètement ignare et surtout totalement dépressive, et comme elle ne sait pas quoi faire de sa peau, la pauvre, en attendant de rentrer chez elle, elle a regardé à peu près 56 fois la comédie musicale Cats, donc voilà, et elle noie son chagrin dans le whisky. Donc, c'est un vrai signe de dépression.
Point de non-retour.
Voilà. Voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que en fait, on a l'impression d'abord d'être dans le vaudeville, et on l'est effectivement, et de temps en temps, c'est pas toujours très léger, faut le dire, mais c'est beaucoup plus intéressant que ça, c'est-à-dire que ces clichés finalement, on arrive à les nuancer complètement en s'attachant à chacun de ces personnages. On est dans la satire, on est dans le burlesque, il y a un ton, il y a un rythme, il y a un humour qui fonctionne très très bien, et finalement on arrive à sourire de cette grande famille dysfonctionnelle qu'est l'Europe. Ça, je trouve que c'est quand même déjà le premier exploit. Le deuxième, c'est que mine de rien, c'est aussi très pédagogique. C'est en gros, pour les gens un peu comme moi, c'est un peu la politique expliquée au nul. Et donc, on se retrouve avec des gens qui passent leur temps à chercher des alliés, des alliances, et à esquiver les règles pour mieux défendre leur intérêt personnel. Et je trouve que finalement, sur ce ton-là, sur cette légèreté-là, ça fonctionne avec des acteurs, vous l'avez dit, Xavier Lacaille, mais qui est absolument pour moi une révélation parce qu'il est tout en fraîcheur et en ironie. Bref, c'est vraiment à recommander.
Merci beaucoup, Ariane. Benoît, vous qui avez joué souvent Cats sur scène, on a des images d'ailleurs, que nous tenons à disposition de nos auditrices et nos auditeurs. Qu'avez-vous pensé de Parlement ?
Moi, j'ai adoré, et effectivement, s'il y a une association pour la politique européenne expliquée au nul, moi, je suis le président. Hein, parce que vraiment, je comprends rien à la vie politique européenne. Et c'est ça qui est très, très bien dans la série, au-delà du fait qu'elle est très drôle, c'est qu'elle en oublie pas d'être très politique et qu'elle décortique bien le fonctionnement bureaucratique européen. D'ailleurs, je me suis même dit qu'en regardant cette série en ce moment, vu la crise actuelle où on a l'impression que l'Europe est un peu absente, on se dit « Ah bah ouais, on comprend pourquoi ». Et donc, ça pourrait presque donner un ton à la série anti-européen, ce qui n'est pas le cas. La série observe juste, et on sent bien que Noé Debré connaît bien la vie du Parlement et qu'il décortique parfaitement. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait penser à ces séries politiques très pointues mais très drôles comme VIP ou Parks and Recreation, des séries anglo-saxonnes, notamment cet épisode où on voit donc Samy, Xavier Lacaille excellent, déguisé en Sharky le requin avec une tenue de requin, enfin bon, très très drôle. Il y a des clins d'œil aussi à la série The West Wing. J'ai retrouvé un petit peu de The West Wing dans cette série. Il y a un épisode où justement il regarde un épisode de The West Wing pour savoir comment se débrouiller avec de son côté au niveau de l'Union Européenne. Donc c'est vraiment très bien, il y a le fil conducteur qui tient bien, tous ces personnages sont attachants, on arrive à être vraiment touché par eux. Moi j'ai un coup de cœur pour Liz Kingsman, l'anglaise Rose, que je trouve admirable, et puis pour William Nadilan qui joue le rôle d'Imon, cet administrateur européen. C'est une sorte de Higgins de l'Union Européenne. C'est excellent, c'est drôle, c'est touchant, et vraiment on a envie de les retrouver.
Je suis entièrement d'accord avec vous, Benoît. Ava, vous avez cassé l'ambiance lors du précédent débat, est-ce que vous allez réitérer l'exploit?
Eh ben non.
Ah,
avec mes camarades.
Ah bah bien sûr.
Non. immense coup de cœur. Alors moi, si vous voulez, une série qui est capable de donner pour titre un de ses épisodes La politique et les saucisses, déjà, je l'aime. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à regarder Parlement parce que c'est une série, comme vous l'avez dit, satirique, joyeuse, décalée au dialogue qui sonne et qui, dans son état d'esprit, on a cité VIP, évidemment, mais m'a aussi fait penser à The Office, série anglaise.
Oui, tout à fait,
complètement.
Parce qu'on retrouve ici la même dynamique, un lieu de travail clos, une hiérarchie, des personnages plus zinzins les uns que les autres et des dossiers qui les dépassent. Et on découvre les arcanes du Parlement européen à travers les épais verres de lunettes d'un jeune assistant débutant d'un député français centriste, un jeune homme naïf et idéaliste, qui trouve que le bâtiment dans lequel il travaille désormais ressemble à un fromage et plus exactement à un caprice des dieux. C'est lui. Clairement, Samy n'est pas armé pour le poste qu'on lui a confié, ni pour la compétition qui est dans les locaux fait rage. Et c'est justement ce décalage qui va accentuer l'effet de comédie. Un personnage gauche propulsé dans une dimension inconnue et inconfortable pour lui. Un personnage qui va devoir, sur le terrain, apprendre les règles d'un jeu qu'il ne maîtrise pas, comme à déjouer les pièges de ses collègues zélés. Alors, il y a une réplique très drôle, dit par le personnage de Samy lui-même, une série sur l'Europe, boring. Et bien, il réussit à faire exactement le contraire, en déclinant, comme vous l'avez dit, cette série comme un manuel ludique pour les nuls sur les dessous du processus législatif, puisque européen, puisque le fil rouge, finalement, c'est le trajet de cet amendement sur le finning. Et c'est une vraie série burlesque, d'initiation à la politique, ses rouages, son langage, ses acteurs, sans oublier le rôle que jouent les lobbyistes, qui font partie des meubles du Parlement dans la série, des genres de serpents siffleurs qui essayent de charmer les eurodéputés. Tout le casting est génial. Xavier Lacaille, évidemment, le héros dans un costume trop grand pour lui. Mais moi, mon coup de cœur, c'est Philippe Duquesne dans le rôle de ce député centriste français, lunaire et affectueux. Je le trouve vraiment délicieux. Et puis tous ces acteurs britanniques et allemands que vous avez cités et qui jouent les assistants zélés. Donc pour finir, je trouve que c'est une série qui, en plus de toutes ses qualités, a des qualités formelles et esthétiques. Elle est très agréable à regarder. Elle a du cachet, elle a de l'allure et elle a le sens du rythme, ce qui est indispensable quand on veut faire de la comédie quand même.
Merci en tout cas de votre enthousiasme, absolument, et je crois que nous partageons tous celui qui concerne Parlement. Et merci à Ava d'être sortie du placard et de nous avoir avoué qu'elle travaillait pour le lobby des fromages pasteurisés, n'est-ce pas, en citant une célèbre
service.
Marque de fromage Fadas. Merci beaucoup, c'était Parlement, 10 épisodes disponibles sur le site de France Télévisions, France.tv.
Ce n'est rien de nouveau, mais c'est toute existence. Fut déjà notre esprit s'abuse étrangement pour la seconde fois. Ou si nous faisons pire, si rien ne change au cours de nos révolutions.
Voilà, nous venons d'écouter le nouveau titre d'Ezekiel Pélès. Bien certain, le titre est extrait de l'album O, un album aux sonorités électro disponible depuis quelques jours sur Circus Compagnie.
France Inter. Une heure en série.
C'est l'heure du plateau télé, un plateau télé de confinement. Donc évidemment, vos conseils vont être particulièrement écoutés, scrutés et attendus par nos auditrices et nos auditeurs. Donc je sais que vous avez mis la barre particulièrement haut. Et Ariane, vous commencez avec la série diffusée sur Canal+, Breeders.
Oui, Xavier. Alors cette semaine, je vous propose un plateau télé sucré-salé, puisque Breeders, voilà, une série britannique inédite, réussit l'exploit d'être tour à tour grinçante et touchante. Alors, elle est nantie d'un casting aux petits oignons, pour continuer la métaphore culinaire, mais surtout, elle va ravir et déculpabiliser bien des parents, surtout en cette période de confinement. En effet, Breeders, qu'on peut littéralement traduire par éleveur en français, s'attache à nous montrer le quotidien de Paul et Ali, un couple d'anglais moyen, débonnaire, plutôt sympa, plutôt marrant, la quarantaine sémillante, on va dire, avec un bon travail et un chouette logement. Bref, leur vie, apparemment, est des plus cool. Sauf qu'ils sont nantis de deux jeunes enfants de 7 et 4 ans, qui, grâce à eux, vont leur faire friser en permanence la crise de nerfs et le burn-out avec un immense sentiment de culpabilité, bien sûr, à la clé. Alors, de quoi concrètement parle Breeders? Il parle de ces mômes épuisés et épuisants qui refusent de dormir alors qu'on a un rendez-vous professionnel capital le lendemain matin. Il parle aussi des nuits aux urgences. Il parle du choix compliqué d'une école. Il parle des grands-parents qui s'incrustent ou qui, au contraire, font défaut au mauvais moment. Il parle surtout, tout simplement, des mensonges plus ou moins convaincants qu'on raconte de façon plus ou moins convaincue à nos enfants parce qu'on est fatigué, parce que c'est compliqué ou parce qu'on n'a pas toujours le temps. Voilà. Donc Breeders, ce sont 10 épisodes qui sont courts, ils durent 25 minutes, qui sont enlevés et surtout, et c'est ça qui les distingue du lot, je trouve, qui propose une version assez crue de la parentalité aujourd'hui. Alors quand je dis crue, je dis pas trash, hein. Attention, il y a une nuance à faire parce qu'effectivement, le portrait de ce couple est sans concession, mais on observe quand même que malgré tout, le tandem reste soudé, qu'il est basé sur la confiance, le respect et surtout, et c'est ça qui vraiment est très sympa, le sens de la répartie. De fait, le registre choisi est celui de la comédie, noire au départ, puis touchante de plus en plus. Le choix des auteurs, qui tous deux d'ailleurs viennent de VIP, qu'on a cité auparavant, est très clair. Pas question ici de la jouer rock'n'roll, hein, c'est pas famille jouée, ou autrement dit en VO, de façon un petit peu plus grossière, fuck the family. Non, au contraire, la devise, le motto de la série, c'est all you need is love. Hein, voilà, c'est l'idée motrice de cette, finalement, c'est une sitcom qui est très drôle, qui est brillamment écrite et qui est toujours criante de vérité. En gros, on est quand même plus près de l'impertinence des Beatles que de celle de The Clash, hein, qui est un de mes groupes préférés, voilà. Rien d'étonnant, pour finir, quand même que je précise que l'initiateur, le co-auteur, le producteur et l'acteur principal de Breeders, eh ben c'est le gentil Martin Freeman, dont on a adoré les mimiques d'anti-héros perpétuellement angoissés ou dépassés, ou les deux, dans Sherlock et dans Fargo. Et il est à nouveau excellent dans Breeders. Il est ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Absolutely delicious.
Merci beaucoup, Ariane. J'avoue être passé à côté de Breeders et du coup, j'ai extrêmement envie, d'aller absolument découvrir.
Allez-y.
Avec les enfants.
Avec les enfants, bien sûr. Alors justement, Benoît, le père de famille que vous êtes, vous nous recommandez Tales from the Loop sur Amazon Prime et je crois être comme vous extrêmement fan de cette série atypique, originale et bouleversante.
Oui, une série signée Nathaniel Halpern, Les Contes de la Boucle, donc Tales from the Loop. C'est comme si c'est le meilleur de Rod Serling, vous savez, de la quatrième dimension, qui aurait pu être revu et mis en scène par Krzysztof Kieslowski, celui du Décalogue. C'est adapté donc d'un univers de science-fiction imaginé par l'artiste suédois Simon Stålenhag, qui utilise tout un imaginaire rétro-futuriste qui évoque les années 70-80. Alors, c'est construit presque comme une anthologie, c'est pour ça que je citais la quatrième dimension, mais plus la série avance, plus les histoires de ces différents personnages finissent par s'imbriquer les unes avec les autres. Alors, ça raconte quoi, cette série? C'est difficile à résumer, mais c'est le quotidien d'habitants d'une toute petite ville mystérieuse, construite au-dessus d'une base scientifique étrange et confrontée donc à des situations fantastiques. Et c'est ça qui le point de départ. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est très beau, c'est mélancolique.
Et si ce monde souterrain autour duquel tourne la vie de ce petit village où travaillent ces scientifiques, on ne comprend pas grand-chose à cet univers-là, c'est pas très grave parce qu'au fond, la série pose des questions extrêmement simples et universelles du genre c'est quoi la vie, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, comment vivre après la disparition d'un être cher, face à l'adversité et la violence du monde, faut-il faire justice soi-même, la vie est-elle plus belle chez les autres, et si on pouvait arrêter le temps pour vivre seul avec, au monde avec l'être aimé, bref, des questions toutes simples. Et ce qui est bien, c'est que cette série prend son temps, mais elle est extrêmement pleine, c'est-à-dire qu'on peut voir cette série et la penser en la regardant, la penser en marchant, sans perdre une miette de l'histoire. Et puis il y a plein de trouvailles, comme par exemple cette sphère dans laquelle on peut crier, et en fonction du nombre d'échos, on sait combien d'années il nous reste à vivre. C'est bouleversant. Alors, c'est une série à voir, surtout en ce moment, parce qu'elle ne joue pas sur les nerfs et pas sur les sensations fortes façon montagne russe. Non, c'est juste élégant, passionnant. Bref, une série qui ne nous promet pas la lune, mais nous offre juste la loupe. Et c'est magnifique.
Jolie, belle conclusion. Jolie. Merci beaucoup, ouais. Benoît. Ava, vous montrez enfin votre vrai visage, celui d'une punk toujours en révolte. Et vous nous recommandez la rediffusion sur Canal+ de Vernon Subutex, d'après l'œuvre de la très punk également Virginie Despentes.
Eh ben oui, j'avais une liste de séries à rattraper qui était posée sur ma table de chevet, donc du coup j'en ai profité pendant le confinement. La saison 1 de Vernon Subutex a été diffusée sur Canal+ en avril 2019, créée par Cathy Vernet, qui était déjà showrunneuse de la série Hard pour Canal+. Alors Vernon Subutex est un disquaire parisien au chômage qui, dans le premier épisode, après s'être fait expulser de chez lui, va chercher un endroit où dormir quelque temps, sollicitant l'aide d'anciens amis de la bande du Revolver, son mythique magasin de disques dans les années 80-90, des punks qui ont vieilli, sauf peut-être le chanteur Alex Bleach, le seul de la bande à avoir connu le succès. Et les chemins de Vernon et de Bleach vont se recroiser un soir. Alcool, pétard, cocaïne, et c'est l'overdose. Alex Bleach meurt, mais avant de mourir, il enregistre 3 vidéos testamentaires. Vernon va embarquer les vidéos avec lui et devenir, par effet de domino, l'homme le plus recherché de la capitale. Alors c'était sacrément audacieux comme pari d'adapter cette trilogie littéraire de Despentes et surtout d'être fidèle au ton et au style de l'autrice. Et c'est vrai, la série, je le reconnais, n'a pas tout à fait la profondeur et la gravité de l'œuvre originale, mais elle réussit à nous embarquer dans une histoire secouante et nous fait partager une vision désenchantée de la société, plus lisse et propre, certes, que celle que dépeignait Despentes. Le format est particulier puisque la série compte 9 épisodes d'une durée variant entre 31 et 37 minutes, un format d'épisode court donc, et un mélange de tons souhaités. C'est à la fois une série dramatique, c'est à la fois de la comédie burlesque, à la fois de la comédie romantique, mais il y a aussi du suspense. J'imaginais pas a priori Romain Duris dans le rôle de Subutex, et pourtant je l'ai trouvé à la hauteur de ce personnage très émouvant, qui n'arrive plus à rebondir sur ses pattes, que le chagrin et la rue condamnent. Et puis il y a ce personnage qui pour moi fait tout, le personnage de la hyène, joué par la toujours exceptionnelle Céline Salette, qui joue une indépendante que les grosses boîtes engagent pour étouffer des scandales ou faire chanter des gros poissons. C'est un personnage hyper charismatique et séducteur, qui prend davantage de place dans les romans de Despentes, et c'est un petit peu mon regret vis-à-vis de cette série. Mais voilà, si vous voulez rattraper Vernon Subutex, c'est toujours sur Canal, et ça vaut surtout pour la galerie de personnages, l'atmosphère, la musique rock très planante, très acide, électro, et les acteurs.
Merci beaucoup Ava de nous avoir recommandé Vernon Subutex, et merci à vous tous de vos conseils zélés et éclairés. Une heure en série en mode confiné, c'est fini pour cette semaine.
Oh,
merci
déjà,
à vous. Ouais, c'est exactement ce que j'avais envie d'entendre. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'y avoir participé. Merci à vous toutes et vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé ou pas. Parfois, il y a eu quelques petites dissensions, mais tant mieux. C'est tout le plaisir du débat. Mrs. America sur Canal+, Dérapage sur Arte et Parlement sur France TV. La semaine prochaine, nous évoquerons entre autres This Is Us sur M6, la série lacrymale Sortez les mouchoirs en papier, et Penny Dreadful City of Angels sur Canal+. Je vous rappelle également demain à 11h et à 20h la diffusion du Masque et la Plume. Vous retrouverez Jérôme Garcin dans une émission consacrée à la littérature. Une heure en série, une émission à réécouter en podcast, évidemment. Il y a un site internet. Malgré le confinement, vous pouvez évidemment nous écrire. L'émission cette semaine était réalisée par David Leprince, et merci à lui. La programmation musicale assurée par Muriel Pérez, et j'ai eu le plaisir de préparer cette émission avec Amel Kaldi.